Chapitre 30. Ce soir-là, Lucie et Franck avaient essayé de faire bonne figure tant que les jumeaux étaient encore debout. Parler avec eux des petites histoires de la vie, la cour de récréation, les copains, la soirée avec Jaya. Pourtant, malgré leurs efforts, Jules et Adrien avaient senti que quelque chose n'allait pas. Les enfants avaient un instinct impossible à tromper. Ils avaient posé beaucoup de questions, demandé pourquoi leurs parents avaient l'air tristes. Charcot s'était alors faufilé entre deux avant de répondre. « Il ne faut pas vous inquiéter. Avec maman, on est triste parce que... Vous vous souvenez d'Audra ? Eh bien, elle est partie. »«
Partie où ?»«
Partie loin. À un endroit où on finit tous par aller, mais d'où on ne peut pas revenir. »«
Mais d'où on ne peut pas revenir ?»
Cette phrase avait eu une résonance particulière aux oreilles de Lucie. Dès que les petits avaient été couchés, frigorifiée, elle s'était rapprochée de la cheminée où flambait une bûche. Franck était quant à lui assis dans un fauteuil, derrière elle, fixant le verre de lagavuline entre ses mains. Il avait vécu une journée interminable.
« Que crois-tu qu'il y a de l'autre côté ?»
lâcha Lucie.
« Après la mort, je veux dire. » Est-ce que tu penses que tout s'arrête quand on meurt ou que... qu'il y a quelque chose? Peut-être que notre âme se retrouve dans un autre corps et que la vie recommence sans qu'on le sache vraiment.
Ce n'était pas le genre de sujet comme la religion dont Franck appréciait de discuter. Parce que cela lui échappait complètement. Lui qui était si rationnel, il ne supportait pas l'idée que rien ne puisse être prouvé. Il m'est arrivé d'avoir des doutes, concéda-t-il néanmoins. Parce qu'il y a des événements qui se produisent parfois et qu'on ne peut pas expliquer. Tu sais, quand ma première femme et ma fille ont quitté ce monde, j'ai vu et entendu des choses, surtout la nuit. Lucie vit les flammes de l'âtre se refléter dans ses yeux, des portes ouvertes sur ses lointains souvenirs. Jamais il ne parlait de cette époque-là. Un plancher qui grince, un jouet qui s'allume tout seul dans la chambre de ma fille. Mais... en définitive, ce sont des coïncidences qu'on interprète comme des présences. Je me dis que ce n'était que des signes que j'avais envie de percevoir. Un plancher, ça grince tout le temps. Un jouet, ça peut s'allumer tout seul, il suffit d'un mauvais contact. Bref, pour répondre à ta question, je crois qu'il n'y a rien, après. Juste l'insondable obscurité. Plus de signaux dans le cerveau, plus de pensées. Le sang ne circule plus, le corps se refroidit, durcit... retourne à la terre. C'est fini. Lucie mesura chaque seconde du silence qui s'ensuivit. Puis elle secoua la tête. Emma Doty était intimement convaincue du contraire. Elle cherchait quelque chose, Franck. Quelque chose de noir et d'affreux que visiblement des personnes ont vu au seuil de la mort. Tout ça, c'est des foutaises. Les témoignages existent à travers le monde. Ils convergent de partout, ils se recroisent et frappent tout type d'individus, blancs, noirs, vieux, jeunes, croyants et athées. Pourquoi ces gens assisteraient-ils aux mêmes scènes? Pourquoi raconteraient-ils la même histoire depuis des siècles?
Alors que sa femme ajoutait une bûche dans la cheminée et refermait l'insert, Franck préféra se réfugier dans son verre plutôt que de répondre.
« Quoi qu'ils disent, de toute façon... »
« Et songe à Audra, » renchérit-elle. Il y a les machines, certes, mais une force vitale incroyable fait que tout ça fonctionne. D'où viendrait cette force, cet élan capable de maintenir un fœtus en vie, si ce n'était d'Audra elle-même, dont les médecins affirment pourtant qu'elle est morte?
Je n'en sais rien, Lucie. Personne ne sait.
Eh bien, moi, je crois qu'elle est encore là. Que même s'ils disent que son cerveau n'est plus fonctionnel, elle est bienveillante, et que... malgré ce qui lui est arrivé, malgré tout ce que pourront annoncer les toubibs, malgré le fait qu'Audra ne voulait pas tout ça, elle prend soin de ce bébé. Comme si elle souhaitait que tout se passe bien pour ensuite, peut-être, partir en paix.
Franck avala une gorgée d'alcool. Même le goût de vieille tourbe de son whisky lui laissait un goût amer en bouche.
Ils n'ont pas le droit de la débrancher maintenant,
murmura Lucie. Malheureusement, d'un point de vue légal, si, ils en ont le droit. Et c'est leur décision. Alors c'est très difficile à supporter, mais il va falloir l'accepter.
Lucie soupira. Parfois, la rationalité inébranlable de son homme l'énervait. D'autant qu'elle ne se leurrait pas. Il avait beau tenter de le dissimuler et de paraître vaillant, il était très affecté par ce qu'il vivait.
« Ce serait bien qu'un de nous ne soit pas loin de Nicolas demain matin, » ajouta-t-il, « et de l'accueillir quelques jours ici ou de rester avec lui à la péniche pour lui éviter de faire une connerie. Même si, à mon avis, ce serait mieux qu'il ne retourne pas tout de suite au milieu de tous ses souvenirs. Audra est encore tellement présente là-bas, sans compter la chambre du bébé. Qu'est-ce que t'en penses ?»
Tous les deux en étaient conscients. Leur vie de famille risquait d'en prendre un coup. Mais il devait bien ça à Nicolas.
Je préparerai la chambre d'amis, mais pour l'hôpital, je...
J'irai, avant le boulot.
Elle le remercia d'un regard. Il avait toujours été l'épaule solide sur laquelle on pouvait compter, surtout dans les épreuves les plus difficiles.
Géco organise une cérémonie pour vendredi. Il y aura le Premier ministre et il veut que je fasse un discours. C'est... compliqué pour moi de parler devant tous ces gens. Qu'est-ce qu'on est censé dire dans ces moments-là?
Parle simplement, avec ton cœur. On formait une famille. Audra était une des nôtres. Je suis sûr que tu t'en sortiras très bien.
Il médita 5 longues minutes, le temps de terminer son verre, puis désigna l'écran de l'ordinateur. Un appel à se remettre au travail, en dépit de l'heure tardive. Lucie ne protesta pas. Elle souhaitait aussi en savoir davantage après ses découvertes de la journée. Elle commença donc par ouvrir le mail envoyé par l'informaticien et qui contenait notamment le mystérieux document Onion. Frank lut le contenu du fichier texte plusieurs fois.
La falaise, le cercle, ça me dit quelque chose, pas toi?
Pas vraiment, non.
Ses lèvres remuaient en silence, il comptait.
Il y a 12 syllabes chaque fois. Des alexandrins.
Une sorte de poème sans rime?
Et une chance pour que ce soit l'enfer de Dante.
Le ventre de Lucie se noua à l'évocation de cette œuvre. Lors d'une enquête précédente, ils avaient déjà été confrontés à des références à la Divine Comédie de Dante. Les 9 cercles qui se rétrécissent au fur et à mesure qu'on descend sous la terre, les péchés de plus en plus graves. De cercle en cercle, on s'éloignait du monde de la lumière et on se rapprochait de Lucifer.
« Ce serait cohérent en tout cas, vu à quel point les diables sont présents dans notre affaire, » répondit-elle.
« Mais pourquoi ce passage-là? Qu'est-ce que ça cache ?»«
Aucune idée. Demain, je vais télécharger le bouquin, vérifier que le texte s'y trouve bien et voir ce que ça donne. » En attendant, raconte-moi ta rencontre avec le psychiatre de Sainte-Anne.
Lucie lui relata son entretien. Elle mentionna le blanchiment des cheveux et le curieux syndrome dont avait souffert Philippe Dubois et qui touchait sans doute également David Nebraza.
Ça expliquerait ses blessures dans le dos, en conclut Charcot. Rien de mystique, donc. Il se serait mutilé tout seul d'une façon ou d'une autre et n'en aurait plus vraiment conscience.
C'est une possibilité. Confirma Lucie. Ce qui est sûr, c'est que Philippe Dubois a vécu une EMI négative qui, probablement, l'a ébranlé psychiquement et l'a conduit parmi les fous. Or, on sait que Nebraza a déjà failli mourir à plusieurs reprises lors de ses performances. Peut-être que lui aussi a vécu ce type de voyage particulièrement intense.
Charcot se rappelait précisément les mots du malade qui s'était jeté sur lui.
Faut pas aller là-bas. Faut pas tenter l'expérience. Cette histoire de faille. Est-ce qu'il parlait d'une EMI ?